Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue. Cinérama, c'est une émission d'une demi-heure consacrée évidemment au cinéma, aux films qui sortent sur les écrans et puis aussi on trouve le moyen de jouer un petit peu avec la filmographie de certains réalisateurs ou acteurs. Aujourd'hui, ce sera un réalisateur mort, mais qui est célébré par un réalisateur de films d'animation. C'est Sylvain Chomet qui a fait Marcel et Monsieur Pagnol. Et donc, ce sera l'occasion de jouer avec la filmographie du réalisateur provençal. Guillaume, tu es tout seul aujourd'hui dans le studio, mais tu as deux films.
Oui, deux films pour m'accompagner. Le dernier, Trône Arès, et un documentaire sur Ozzy Osbourne.
Sophia ne peut pas être avec nous en ce moment, mais ça ne l'empêchera pas de nous parler de The Chronology of Water de Kristen Stewart. 40 ans après avoir ouvert les portes du cyberespace, la saga Trône revient explorer les limites entre l'humain et le programme dans un monde toujours plus connecté. Allez, c'est Trône.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Depuis la nuit des temps, les êtres humains contemplent les étoiles et se demandent : sommes-nous seuls ? Tous ne parlent que d'IA et de tech de nos jours. Les mondes virtuels, comment seront-ils? Quand va-t-on y aller? Eh bien, les amis, nous n'allons pas y aller. Ce sont eux qui vont venir ici.
Mais quelle mouche a piqué Disney pour que le studio produise Trône Arès? Alors, 15 ans après le deuxième opus, à Trône l'Héritage, et 43 ans après le premier Trône, qui ont leur aura culte, mais qui n'avaient pas marqué le box-office, la grille, les programmes, les disques et les motos virtuelles sont de retour en salle. Bien que toujours en activité, mais ayant plus ou moins levé le pied pour le premier et passé chez les avions de Tom Cruise et les Formule 1 de Brad Pitt pour le second, les réalisateurs des précédents films, Steven Lichtenberg et Joseph Kosinski, ne remplissent pas et ont été remplacés par Joachim Rønning. Alors, ce dernier avait déjà co-réalisé plusieurs films pour Disney, dont Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar en 2017 et Maléfique 2, Le Pouvoir du Mal en 2019. Bon, on va essayer d'oublier son Bandidas pour Besson en 2004, car ça vaut guère mieux, mais dans tous les cas, on passe du précurseur visionnaire efficace, puis du wannabe Kubrick pop, mais faiseur également efficace, à un homme littéralement synonyme d'échec artistique. C'est donc ça, le futur version de Disney ?
Je vous présente Arès, le soldat absolu. D'une force surhumaine, ultra rapide, supérieurement intelligent. Et s'il tombe sur le champ de bataille, je vous en fais un autre aussitôt.
Alors Arès est un programme informatique à la solde d'un jeune vilain PDG qui va découvrir que le monde des vrais humains, il ne faut pas l'envahir pour le détruire, mais qu'il y a de belles choses dedans. Voilà, on peut remballer. Alors blague à part, malgré le fait que l'intrigue de ce film à 200 millions de dollars est littéralement ça, la grande promesse de ce troisième volet, c'est d'enfin d'inverser les codes des deux précédents. Alors bon, on met bien sûr de côté le premier qui posait les bases, donc Flynn, un concepteur de jeux vidéo joué par Jeff Bridges, qui s'est vu voler ses jeux par son ex-employeur, veut à tout prix récupérer une preuve qui lui ferait valoir ses droits. Alors avec l'aide de deux de ses anciens collègues, il infiltre le MCP, le maître contrôleur principal, un ordinateur avide de pouvoir à l'intelligence artificielle surdéveloppée. Alors quand ce dernier découvre que Flynn veut s'infiltrer dans ses circuits, il le téléporte dans un jeu vidéo. Pour s'évader, Flynn devra compter sur l'aide de Tron, un programme indépendant inventé par Alan, l'un des collègues de Flynn. Le deuxième film, lui, reprenait peu ou prou le même chemin et la même intrigue, en mettant en scène le fils de Flynn. Et bien, il n'y a plus de Flynn, ni de fils dans le 3, sauf pour Flynn, le temps d'une séquence nostalgique totalement lunaire et qui pourrait être enlevée du montage. Et on laisse place à une jeune femme qui est à la tête de son entreprise et qui va vivre ou prou les mêmes choses, mais à l'envers. Car ici, c'est donc le monde virtuel qui tente d'envahir le réel.
Tu crois ?
que tu contrôles tout ça. Tu as tort. Vous êtes quoi ?
Je suis à la recherche de quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas.
Alors dans Tron Héritage, il y avait Korra, un personnage virtuel qui agissait comme une enfant et qui découvrait émerveillé le vrai monde. Dans Tron Ares, c'est le cas du Ares du titre, ou bah, plus précisément, hein, qui découvre que les êtres humains sont complexes et que leurs émotions est ce qui fait la richesse de leur monde non programmatique. Alors ces visions d'enfant hein, vont se retrouver confrontées à la démesure corporatiste de notre visage assez juvénile, mais lui habité par les chiffres de Wall Street. Le coup des enfants hein, dans un corps d'adulte face à un petit génie mégalomane à la tête d'une immense corporation, bah, c'est peu ou prou l'histoire de la série Alien Earth hein, qui vient de se terminer sur Disney+, soit le même producteur que Tron Ares. Alors Tron Ares s'en sort un tout petit peu mieux, hein, tout simplement parce qu'il n'a que 2 heures à combler au lieu de 8. On peut se demander s'il n'y aurait pas une maladroite tentative de dire quelque chose sur notre monde actuel, hein, entre deux grilles de formatage et d'hypocrisie entrepreneuriale cachée derrière un quelconque argument artistique. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, je pense complètement vain, car le manque de courage d'écriture fait tout tomber dans une caricature éhontée que même les années 80 évoquées auraient évité. Alors oui, c'est joli, hein, la musique de Nine Inch Nails marche bien, hein, même s'il succède à Daft Punk qui avait fait la musique du 2. Ils arrivent à relever le rythme qui est vraiment en dents de scie, mais on va dire que c'est plus un mauvais remake de Pixel avec Adam Sandler qu'un vrai Tron. Tron d'ailleurs, hein, j'ai fait exprès de rappeler un petit peu son histoire parce que il n'est c'est le nom du personnage qui donne le nom au film. Il n'est même plus dans le film proposé. Donc je propose pour Disney de faire bientôt une suite de Lawrence d'Arabie en Chine avec Genghis Khan dans le rôle principal.
Fais attention, il pourrait le faire. En tout cas, on est bien d'accord, hein, c'est pas la peine de regarder le 1 et le 2 pour regarder le 3. Il n'y a pas de suite comme Star Wars. Hein.
Un petit peu, mais très honnêtement, c'est suffisamment évoqué pour que les, on va dire les retardataires ou les nouveaux spectateurs ne s'y perdent pas.
En tout cas, il y a un sacré décalage entre le premier, dont j'ai un souvenir assez ému.
Et qu'on conseille, hein, qui marche, même si les effets spéciaux ont vieilli. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont gagné une patine totalement intemporelle, en fait.
C'est vrai. Tron Ares est en salle actuellement. Cannes, il y avait beaucoup de femmes réalisatrices l'an dernier, puis eh bien cette année, il y avait encore Scarlett Johansson, mais son film n'est toujours pas sorti. En revanche, il y a celui de Kristen Stewart, The Chronology of Water, les souvenirs d'une femme en quête d'elle-même entre naufrage intime et renaissance. C'est Sophia qui nous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Kristen Stewart, oui, celle qu'on a connue sous les projecteurs de la saga Twilight, est devenue depuis une figure incontournable du cinéma indépendant américain. Une actrice qui a préféré la marge, enchaînant des rôles aussi radicaux que fragiles, hein, jusqu'au récent Love Lies Bleeding en 2024, un film queer, violent, incandescent, qui annonçait la mue d'une actrice vers la réalisatrice qu'elle est aujourd'hui. Avec The Chronology of Water, présentée cette année à Cannes dans la section Un certain regard, Stewart adapte, pour son premier long métrage, les mémoires de Lydia Yuknavitch, La mécanique des fluides, un texte brutal et intime pour en faire un film totalement habité, sensoriel et organique. Un film sur la construction et la reconstruction d'une femme, marquée par l'inceste, la violence paternelle et la honte, mais aussi sur la manière dont on transcende la destruction à travers la création. Stewart filme l'acte d'habiter la douleur, de la saigner, de la sculpter, de la transformer en langage. Et le résultat, tourné en 16 mm, est à la fois nerveux, pulsionnel et viscérale, comme si la caméra filmait depuis l'intérieur du corps, au rythme désordonné d'une mémoire en reconstruction.
Sometimes I think it arrived on paper. Hey, honey.
The Chronology of Water ne propose pas une narration linéaire, mais un kaléidoscope erratique de souvenirs, d'images et de sensations, à l'image du livre de Yuknavitch. 5 chapitres s'enchaînent, oscillant entre enfance, adolescence et âge adulte, jusqu'au dernier, The Other Side of Drowning, l'autre côté de la noyade. On y suit Lydia, incarnée par l'impressionnante Imogen Poots, qui grandit donc dans un foyer ravagé, d'une part par la violence d'un père colérique et incestueux qui exerce sur elle et sa sœur Claudia une pression constante, de l'autre par la fuite d'une mère absente à elle-même, naviguant entre déni et effacement. La piscine devient pour Lydia son seul espace de liberté. Une bourse universitaire au Texas lui offre une échappée, mais ses démons l'accompagnent. Alcool, drogue, désillusions sentimentales. C'est alors l'écriture qui prend le relais, comme dernier recours, comme un exutoire vital, un pari pour regagner une voix qui lui a été dérobée. Au fil du film, les amours se succèdent, certains toxiques, d'autres plus salvateurs, des relations où l'abandon et la violence intime refont surface. Dressant le portrait d'une femme tiraillée entre ses zones d'ombre et le désir de lumière, entre le poids de son passé et la tentative lancinante de se réinventer, The Chronology of Water reconstitue l'histoire morcelée d'une femme qui ne se délivre pas du trauma par l'oubli, mais qui réclame, mot pour mot, image par image, le droit de raconter, de légitimer sa douleur et de vivre au-delà d'elle.
When there are no words for the pain, let your imagination change what you know to be.
Je vous le disais en mai, lors de notre chronique spéciale Cannes, j'avais failli quitter la projection. Les premières dizaines de minutes sont d'une intensité toute particulière, un maelstrom d'images et de sons. C'est un film vraiment qui attaque les sens, avec un montage syncopé, une bande-son saturée, où tout concourt à faire ressentir physiquement une agression permanente. Stewart filme la mémoire comme un court-circuit, ça saute d'un âge à l'autre, ça se confond, piscine, chambre, souvenir, hallucination. Le montage épouse ce que la réalisatrice s'appelle la logique neurologique du souvenir, un flux discontinu où le corps devient l'unité de mesure du temps. Le grain du 16 mm, la surexposition des peaux, la matérialité même de la pellicule rendent tangible cette mémoire traumatique. En filmant la honte au plus près de la chair, le corps de Lydia devient un champ de bataille, celui de la domination masculine, de l'inceste, mais aussi de la survie. Et à travers lui, Stewart interroge la manière dont les femmes héritent collectivement d'une violence qui s'inscrit dans la mémoire, dans le corps et dans le geste même de se raconter. Mais bon, cette hypersensorialité, cette suresthétisation de la douleur pourra aussi dérouter. Certains y verront une forme d'excès, un risque de beauté, alors qu'on peut voir ce déséquilibre comme faisant partie du projet, figurer l'indicible sans l'adoucir, quitte à en faire un spectacle qui déborde. Like you know, you should know what happened when I came to bed. Like you know, you should know, but you don't know. Like you know you should know, but you don't know. Like you know you should know, but you don't know what you did. Regarder The Chronology of Water, c'est comme lire plusieurs mémoires à la fois. On y trouve autant d'échos que d'éclats, ceux d'une conscience qui tente de remettre de l'ordre dans un chaos ancien. C'est un film donc qui convoque d'autres voix, celle de Goliarda Sapienza dans L'Art de la Joie, cette même énergie insoumise qui refuse de se laisser définir par la douleur, celle de Neige Sino dans Triste Tigre, qui écrivait « Tout ce qui a rapport au viol s'est actualisé tellement souvent, les sensations de trop réel et d'irréalité se confondent, comme s'il s'agissait d'une seule sensation, la sensation d'une révolte, de l'être tout entier, qui en se révoltant contre ce qui ne peut pas cesser de se produire, s'anéantit. Et qui signait ainsi « La littérature ne m'a pas sauvée, je ne suis pas sauvée ». Kristen Stewart non plus ne promet ni salut ni guérison, elle filme la création comme ultime résistance, vivre avec une plaie ouverte, sans pouvoir la refermer et pourtant créer. Car comme l'écrit justement la poétesse Lisa Sanchez, il existe un lieu pour l'après.
The Chronology of Water est en salle depuis le 15 octobre. Un portrait aussi poétique qu'intime de Marcel Pagnol. Nous parlons de Marcel, Monsieur Pagnol, le dernier Sylvain Chaumet.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Il faut savoir tirer sa révérence.
Ah non, il est hors de question que vous arrêtiez d'écrire. Marcel, mes lectrices raffolent de votre travail. Elles veulent tout savoir de vous.
Les biopics au cinéma, c'est un filon qu'Hollywood aime bien, et pas que, tous les producteurs finalement aiment bien les biopics. Allez, citons Un parfait inconnu sur Bob Dylan, Maria sur Marie Callas, ou encore Monsieur Aznavour sur qui vous savez, qui sont sortis cette année. Mais des dessins animés qui racontent la vie d'un homme ou d'une femme, c'est bien plus rare. Encore plus rare de s'intéresser à un cinéaste, c'est pourtant ce qu'a fait Sylvain Chaumet, celui qui s'est fait connaître avec les triplettes de Belleville, et qui est allé même bien concourir aux Oscars, vient de sortir Marcel et Monsieur Pagnol, un bijou bijou d'animation qui dresse la trajectoire d'un artiste singulier. Il en vient à raconter comment Marcel, qui déclare à sa mère qu'un jour il sera eh bien, célèbre, va devenir Pagnol, un auteur de théâtre qui va saisir la valeur du cinéma, l'image animée lui permettant de mieux encore figurer les sentiments humains.
Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille ?
J'ai le poème.
Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre.
Ce succès n'a pas l'air de te faire plaisir, Marcel.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?
Et action !
Alors si les triplettes de Belleville versaient dans le burlesque et étaient sans dialogue, eh bien Marcel et Monsieur Pagnol en prend le contre-pied. Il s'agit d'un film bavard, en phase avec son sujet, un créateur passionné par la langue et les dialogues. Sylvain Chaumet a confié qu'il s'était inspiré des textes originaux et en avait inventé d'autres en essayant d'écrire des dialogues à la Pagnol. Alors c'est en imaginant un Pagnol devant raconter l'histoire de sa vie au magazine Elle que Chaumet construit son récit. La soixantaine, Pagnol voit un gringalet s'insinuer dans sa réalité, un enfant, le petit Marcel, qui va l'aider à dévoiler sa jeunesse, son départ pour Paris, son petit succès, puis son grand succès, son engouement pour le cinéma ou encore sa volonté de construire des studios à Marseille et de conserver l'accent marseillais pour des tournages qui s'effectuent dans la garrigue, comme si Pagnol touchait le néo-réalisme avant l'heure.
Mais qu'est-ce qu'il a de plus, ton cinéma parlant, hein ?
Grâce à la caméra, je pourrais m'envoler dans les airs. Je ne serai plus limité par les dimensions de la salle. Je pourrais montrer un visage à 50 cm pour y voir couler une larme.
Tu veux que je pleure ?
Finalement, je vais le faire, ton boulanger cocu.
Marcel
Pagnol.
Monsieur Marcel Pagnol.
Le petit Marcel écrit des poèmes à sa mère qu'il veut sans cesse éblouir avant que ce ne soit le public des années après. Alors sa mère morte, il reste son père qu'il ne veut pas décevoir et à qui il cache ses premières pièces. La relation qu'il a aux êtres est aussi importante que la relation qu'il a avec son art. Pagnol a eu une vie parsemée de morts autour de lui. Le film de Chaumet ne les évacue pas sans toutefois s'apesantir. Mais le réalisateur ne veut pas tout sacrifier à la réussite. Ses pièces qui sont vite un succès et son élan vers le cinéma. En racontant l'histoire de Pagnol, il est aussi question d'une grande partie de l'histoire du cinéma du XXe siècle, des premières expériences en parlant, parce que Pagnol découvre le cinéma muet, évidemment, mais aussi le cinéma parlant. Et d'ailleurs, Pagnol refuse de faire avant tout du cinéma parlant, jusqu'au tournage donc en pleine garrigue, en passant par l'occupation allemande et les perches tendues par l'occupant à Pagnol pour qu'il continue de tourner à la gloire du régime, et bien jusqu'à la libération, et puis l'arrivée de la culture hollywoodienne à la faveur de négociations commerciales avantageuse pour les Américains. Avec une séquence de mise en garde, en regardant des films américains en masse, cela va dénaturer notre culture, nos envies et notre regard.
Je te le promets, maman, un jour tu seras fière de moi.
Alors j'ai hâte de voir.
Mesdames et messieurs,
Marcel
Pagnol.
Marcel Pagnol.
Monsieur Pagnol.
Un jour, vous entendrez parler de lui.
Puisqu'il s'agit d'un film d'animation, eh bien parlons de celle-ci. Elle se veut fluide avec un dessin net qui fait apparaître les couleurs du midi comme celle de Paris. Et puis il y a les voix, avec celle de Marcel Pagnol qui est prise en charge par Laurent Lafitte, absolument méconnaissable. Je pense qu'on aurait pu faire un blind test, personne n'aurait trouvé qui interprétait Pagnol. Alors évidemment autour de Pagnol, il y a d'autres accents chantants comme celui de Rému, bien sûr. Il y a quelques éléments légers, voire drôles, pour fausser compagnie au discours aussi. Cinéaste doué à qui tout réussit. Il y a aussi les films de Pagnol qui s'incrustent dans l'image animée en contraste avec la couleur des dessins, de quoi laisser tout de même à ceux qui n'auraient jamais vu aucun des films de Pagnol, ça peut arriver, eh bien une petite idée de la tonalité de ses œuvres. Voilà, c'est un film alors, qui ramasse un grand nombre d'années, c'est là toute la difficulté, mais c'est au-delà quand même de l'anecdotique, puisque ça apporte non seulement énormément d'éléments biographiques sur la vie de Pagnol, et puis aussi sur son rapport au théâtre et au cinéma.
Si vous aimez l'animation, d'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Sylvain Chaumet, il avait déjà fait avec L'Illusionniste une adaptation d'un scénario qui n'avait jamais été fait de Jacques Tati, et que si vous avez apprécié ce biopic animé français, il y en a un autre qui est assez chouette aussi dans le même temps, qui sortit en 2022 sur Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Donc, comme quoi, on a un beau filon en France.
Et puis, bien, ce film de Sylvain Chomet va nous donner l'occasion de jouer à un blind test. Alors, non pas autour de la filmographie de Sylvain Chomet, ce qu'on aurait pu faire, mais on va plutôt jouer autour de la filmographie de Marcel Pagnol. Et je pourrais dire que, Guillaume, tu es quand même nettement avantagé, puisque durant tout l'été, Cinérama, si vous avez eu la chance de nous écouter, tu as fait une série spéciale sur le réalisateur provençal. Allez, 5 extraits, il faut deviner le titre, ça commence.
Dans le langage des savants, l'embolique, c'est une maladie. Le médecin m'a dit que c'était une espèce de gros bouchon qui se mettait dans les artères. Et tout d'un coup, toc, tout s'éteint, comme si on avait coupé le gaz.
Ah, elle veut dire une embolie hydre.
Y a même des gens qui appellent ça une embolie.
Oui, à Lyon.
Si vous voulez, Manfred est mort quand même.
Ah, ça, c'est une belle mort.
Oui, c'est une belle mort pour les autres. Moi, j'aime mieux une laide vie qu'une belle mort.
Alors, l'emboligre, l'embolie, c'est trouvé.
C'est César, le seul film de la trilogie marseillaise réalisé par Marcel Pagnol lui-même.
Oui. Et bien ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans le film de Sylvain Chomet. Son premier film, il n'est que scénariste. C'est le dernier volet de la trilogie marseillaise. César retrouve Marius et Fanny plusieurs années après leur séparation. Leurs choix passés refont surface lorsque leur fils Césario découvre la vérité sur son père. Entre émotion et réconciliation, Pagnol conclut avec tendresse cette grande fresque sur l'amour, la famille et le pardon, film de 1936. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Marcel Pagnol.
D'abord l'oncle, sais-tu ce que c'est que le cinéma parlant ?
Oui, c'est une salle sans lumière où je m'ennuie énormément.
Tu as tort.
J'ai tort de m'ennuyer, mais dis donc, je ne le fais pas exprès. Parce que moi, de m'ennuyer, ça m'ennuie. Mais le rapport avec ce papier.
L'oncle, mon don de Dieu, c'est le cinéma.
Quoi ?
Oui, acteur, comédien, tragédien. Ça te fait plaisir, hein ?
Ma foi, il vaut mieux le savoir. Comme ça, au moins, on est fixé. Et alors ?
Alors, une puissante compagnie américaine qui a une filiale en France m'a signé cet engagement. Écoute. Entre la maison Verniquel et compagnie d'Hollywood et M. Irénée Fabre, moi, il est convenu ce qui suit. M. Irénée Fabre est engagé en qualité de comédien pour une durée de 3 ans.
Alors, ça a été trouvé, évidemment.
C'est le Spoons.
Oui, on entend Fernandel. Irénée, un jeune épicier de Provence, rêve de devenir une grande vedette de cinéma. Pris pour un naïf par une équipe de tournage en goguette, il se rend à Paris persuadé d'avoir été découvert. Derrière la comédie, Pagnol signe une satire savoureuse des illusions et des mirages du monde du spectacle. Film de 1938. Troisième extrait de ce blind test.
C'était un drôle d'homme. C'était même un drôle de bossu.
Ah, il avait une bosse énorme. Et pourtant, il n'était pas petit. Hein.
Si on lui avait redressé la bosse, il aurait eu 2 mètres d'eau.
Il avait une jolie figure, pâle, fine, avec de bons yeux.
2 fois par semaine, il venait de là-haut à la messe de 6 heures. Et en passant, il prenait son pain au four. Et sans jamais me dire un mot. Hein. Sauf peut-être merci. Oui, merci. Ça veut dire que ça.
Et moi, il m'achetait une petite côtelette et 3 francs de viande pour les chiens. Oh, pas tous les jours, hein, mais 1 fois par semaine à peu près. Et on se disait quelques petits mots sur le beau temps, le mauvais temps.
Mais t'avais une bonne chance, parce qu'il parlait jamais à personne.
Bon, il parlait jamais à personne parce que personne ne lui parlait.
Et pourquoi ? Parce qu'il était bossu.
Là, tu sèches. Ouais. Alors là, on sent la truculence des dialogues. Cette séquence, elle dure, un quart d'heure, je ne sais quoi. Donc, indice, film de 1952, dans un village provençal, la jeune Manon cherche à se venger des paysans.
Pusatier.
Eh ben non, c'est Manon des Sources.
Manon des Sources.
Eh oui, ah oui, Manon, je pensais que t'allais trouver. Donc elle cherche.
Je précise, je suis bien malade là.
D'accord. Elle cherche à se venger des paysans qui ont causé la mort de son père en lui volant sa source d'eau. Son retour bouleverse la vie du village, pris dans la sécheresse et la culpabilité. C'est un drame rural et poétique sur la justice et la mémoire des injustices. Quatrième extrait, nous cherchons un titre de film de Marcel Pagnol.
Et alors, le curé, il en a profité pour me filer une messe en première là. J'ai rien compris. Il m'a parlé de la bonté de Dieu, enfin tout ça, c'est bien joli, mais ça ne me dit pas où elle est.
Vous ne vous étiez pas disputé hier au soir ?
Oh non, oh, pas moi, depuis 5 ans que nous sommes mariés, jamais eu de dispute, jamais un mot. D'ailleurs, ma femme, c'est une femme très calme, elle ne parle jamais.
Mais toi, en réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon, aucune idée dans la direction qu'elle aurait pu prendre ?
Mais la seule chose qui soit possible, c'est qu'elle se soit languie de sa mère. Elle y a été.
Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit ?
Ah ben parce qu'elle a eu peur que je lui refuse.
Trouvé.
C'est la femme du boulanger ?
Oui, film de 1938, quand la jeune épouse du boulanger s'enfuit avec un berger, son mari désespéré, interprété par Rému, cesse de faire le pain. Tout le village se mobilise pour retrouver la fugitive et ramener la paix et le pain au village. Une comédie plutôt tendre, hein, humaine, où Pagnol célèbre la solidarité et la vie provençale. Allez, c'est le dernier extrait de ce blind test.
Oh, l'argent. Tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre donc les yeux. Regarde la vie. Regarde tes contemporains. L'argent peut tout. Il permet tout. Il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fosse dent, invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien? C'est la force qui gouverne le monde. Et ces petits rectangles de papier bruissant, voilà la forme moderne de la force.
Allez, encore Fernandel.
C'est l'implacable Topaz, toujours d'actualité. Hein.
Film de 1936, instituteur intègre mais naïf, Topaz est renvoyé pour avoir refusé de tricher. Il devient alors l'homme de main d'un politicien véreux et découvre peu à peu le pouvoir de l'argent et de la corruption. C'est une fable morale, hein, sur la perte de l'innocence et les compromissions du monde moderne. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Marcel Pagnol, puisque nous parlions du dernier film de Sylvain Chaumet, Marcel et Monsieur Pagnol, en salle depuis le 15 octobre. Allez, rocker légendaire et figure insoumise, Ozzy Osbourne se raconte ici sans phare dans Ozzy, No Escape From Now.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Le 22 juillet de cette année, le monde est devenu un peu plus sinistre et vain. Alors qu'il avait triomphalement fait ses adieux à son public lors d'un concert historique, hein, le 5 juillet, Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres lui-même, rejoignait son créateur et laissait la planète musicale et métal orpheline de plus de 50 ans de rock'n'roll. Que dis-je, de heavy metal, hein, puisque Black Sabbath furent les inventeurs de ce son révolutionnaire et qui allait changer la face du monde.
Écoutez un morceau de Black Sabbath, Paranoïde.
Et oui, alors je préfère le préciser tout de suite, hein. No Escape From Now est un documentaire difficile à regarder. Toute la première partie est extrêmement déprimante pour tous les fans d'Ozzy Osbourne, car il est rongé par la maladie depuis 5 ans, hein, et complètement diminué. Et si la seconde le voit réussir à faire plus de choses, hein, que ce que son état le permettait, ben on assiste quand même au déclin inexorable de celui qui a été une bête de scène et qui va quasiment mourir sur scène. Alors il y a peu de musique, hein, dans No Escape From Now, c'est pas un documentaire musical, et c'est pas grave, hein, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de documentaires sur Ozzy et sur Black Sabbath. Par exemple, on évoque surtout la conception des albums Passion No. 9 ou d'Ordinary Man, hein, parmi ses dernières productions, mais même si il compte à leur générique Post Malone ou Elton John, ben, ces derniers n'interviennent pas et on reste surtout sous la résurrection musicale d'Ozzy qui reprend vie lorsqu'on le met derrière un micro. Voilà, ce film, hein, c'est avant tout l'ultime portrait, hein, d'un artiste légendaire, pas le plus heureux, hein, mais qui permet d'apprécier son engagement total envers son art. Hein, cet engagement lui permettra de gagner quand même 2 Grammy Awards pour Passion No. 9 et d'assurer donc l'ultime réunion historique de Black Sabbath avec ses membres d'origine et avec la participation de toute la planète métal, hein, pour une journée de concert, donc ce fameux 5 juillet 2025. Vous les connaissez tous, hein, Metallica, Slayer, etc., etc.
C'est encore Black Sabbath, cette fois-ci avec Iron Man.
Donc ce fameux Iron Man qui est en fait Ozzy. Hein. Donc on voit, hein, les répétitions des dernières manifestations, hein, auxquelles il va assister, des répétitions qu'il montre en train de combattre sa maladie comme un lion et pour assurer sur scène. La scène qui justement lui ramène toute son énergie. Alors ce qui est bien dans No Escape From Now, c'est vraiment de comprendre, hein, comment sont fabriqués, hein, ces stars. Ozzy est fait du bois de ceux, hein, qui continuent à faire ce qu'ils aiment, non pas pour l'argent, mais parce que c'est littéralement dans leur sang. Ils mourront sur scène et seront éternels. Hein, il conclut sa prestation légendaire en adressant un Birmingham Forever à la foule. C'est lui, pour de bon, pour toujours, l'Iron Man.
No Escape From Now, ce documentaire sur Ozzy Osbourne est disponible sur Paramount+.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Un sacré programme la semaine prochaine avec le dernier film de Abzia Herzi, La Petite Dernière. Il y aura aussi le nouveau Kaamelott. Il y aura la disparition de Joseph Mengele. Et dans un tout autre style, à nouveau un film d'animation, le vainqueur du festival d'Annecy, Arco. Et avec une interview à la clé, à la semaine prochaine.